Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 2 janvier. Eh bien, je vous souhaite une belle année 2022 et au cours de cette émission, ce dimanche, le journal, les sports et on parlera de l'exposition de mode aborigène à Paris bientôt, Pimpy Goes to Paris. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 2 janvier, le Premier ministre Scott Morrison surveille les symptômes de Covid-19 après qu'un cas positif a assisté à sa conférence de presse mercredi dernier. Forte augmentation de patients Covid-19 dans les hôpitaux en Nouvelle-Galles du Sud et un virologue australien déclare que la vague actuelle d'Omicron devrait atteindre son pic d'ici la fin de janvier. Le Premier ministre australien Scott Morrison surveille les symptômes de Covid-19 après qu'un cas positif ait assisté à sa conférence de presse mercredi dernier à Kirribilli House à Sydney. Selon les directives de la santé de Nouvelle-Galles du Sud, Scott Morrison n'a pas besoin de s'isoler ou de passer un test PCR. Le briefing de mercredi a eu lieu pour annoncer une réunion instantanée du cabinet national qui s'est tenue jeudi lorsqu'un assouplissement des exigences d'isolement et de tests a été annoncé. L'événement de mercredi a eu lieu à l'extérieur avec les participants portant des masques. Il y a eu une forte augmentation de patients Covid-19 dans les hôpitaux en Nouvelle-Galles du Sud, le nombre dépassant les 1000 personnes pour la première fois. 1066 personnes sont traitées pour le Covid-19 à l'hôpital, ce qui représente 3 fois le nombre en moins de 2 semaines. Le nombre de personnes en soins intensifs est de 83 et au cours des dernières 24 heures, l'État a enregistré 18 278 nouveaux cas et 2 décès. Et au cours des dernières 24 heures, dans le Victoria, l'État a enregistré 7172 nouvelles infections et 3 décès. Il y a 472 patients de Covid-19 dans l'hôpital de l'État avec 98 personnes en soins intensifs. En Tasmanie, 400 cas nouveaux cas depuis hier et dans les City, 506 nouveaux cas enregistrés hier. Un personnel de santé qui entre en contact étroit avec un cas de Covid-19 sera autorisé à continuer de travailler en Nouvelle-Galles du Sud à condition qu'il soit asymptomatique. Vendredi, le ministre de la Santé de New South Wales, Brad Hazard, a signé une exemption pour les travailleurs de santé qui sont des contacts étroits de quitter l'isolement s'ils sont asymptomatiques. Jared Hayes, secrétaire du syndicat des services de santé de la Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré qu'il y avait beaucoup de pression pour le personnel de santé en Nouvelle-Galles du Sud.
They've had 18 months of chronic fatigue. They've had light at the end of the tunnel, which disappears on several occasions. They're looking to the future. They're doing everything they can. With the 2,000 people a day being furloughed, they're becoming more and more frustrated. It's not great from their morale at any level.
Un virologue australien a déclaré que la vague actuelle d'Omicron devrait atteindre son pic d'ici la fin de janvier ou début février. Adrian Esterman de l'Université de South Australia déclare que l'Australie continuerait probablement à avoir un grand nombre de cas dans le Victoria, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie méridionale et dans d'autres états et territoires du pays. Le professeur Esterman déclare qu'un nombre suffisant de personnes sera finalement entièrement vacciné avec des doses de rappel, ce qui entraînera à nouveau une baisse des cas.
That we'll start seeing cases coming down, so we'll hit that peak and start going down on the other side of that peak. And that will happen, I don't know, late January, beginning of February, but it will happen. That's the good news. The bad news is that when we're at the peak of case numbers, our hospital systems will be really struggling to cope.
La nouvelle que, selon des rapports scientifiques, que Omicron ne serait pas aussi sévère que d'autres variants comme le Delta. Explication de Muriel Paradon pour Radio France Internationale.
C'est un rapport scientifique publié cette semaine. Il provient du programme SRAS-COVID de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis. Plusieurs laboratoires américains, mais aussi japonais, ont participé à une étude sur les rongeurs. Ils ont inoculé différents variants du Covid à des souris et des hamsters afin d'observer les conséquences sur leur organisme. Il en ressort qu'avec Omicron, les symptômes seraient plus légers qu'avec d'autres variants comme le Delta. Les rongeurs ont eu une charge virale moindre et n'ont perdu que peu de poids. Explication des scientifiques, Omicron toucherait davantage les voies respiratoires supérieures comme le nez, la gorge et la trachée, et beaucoup moins les poumons, ce qui expliquerait des formes moins graves de la maladie. Une étude encourageante, mais qui reste à confirmer par d'autres, et elle n'a été menée que sur des animaux de laboratoire. Les scientifiques n'ont en revanche pas déterminé, et ce n'était pas l'objet de l'étude en question, pourquoi le variant Omicron était si contagieux.
Un mandat de port du masque est entré en vigueur depuis 1h du matin ce dimanche, heure locale dans le Queensland. La maison familiale est le seul endroit où les masques ne sont pas obligatoires, les masques étant désormais nécessaires sur les lieux de travail, dans les salles d'attente, dans les bibliothèques, chez les coiffeurs, dans les salons de beauté, dans les lieux d'accueil et les stades ouverts, couverts, sauf assis. Le médecin-chef du Queensland, John Gerrard, a déclaré que le port du masque était très nécessaire pour garantir que les hôpitaux ne soient pas submergés.
Even though the majority of people with COVID-19 have an illness like the flu, the majority of us, if and when we get it, will get an illness like the flu, there are still people that will get seriously ill when they acquire COVID-19. It's very critical. We mustn't underplay how severe this disease can be, and hence the need for the increased numbers. The increased use of masks in indoor spaces.
Le Queensland a enregistré 3587 nouveaux cas ce dimanche. 112 personnes sont hospitalisées, dont 5 en soins intensifs. Les autorités se concentrent aussi sur le centre de détention pour jeunes de Brisbane qui traite un groupe d'au moins 14 cas impliquant du personnel et des détenus. Le chef de South Australia, Stephen Marshall, s'est excusé après que des mauvais résultats du test COVID-19 aient été envoyés à 11 personnes le soir du Nouvel An. South Australia Pathology, géré par l'État, indique que le laboratoire a produit les bons résultats de test PCR, mais l'erreur s'est produite en raison d'un problème informatique, ce qui a entraîné l'envoi de résultats incorrects aux personnes. L'erreur a été détecté dans les 3 heures et 11 personnes ont été informées et des excuses ont été présentées. Stephen Marshall déclare que d'autres protocoles ont été mis en place pour garantir que l'erreur ne se reproduise plus.
They are obviously under enormous pressure within SA Pathology and in our private labs. We've seen mistakes in other pathology services around the country. We had a small hiccup. We've taken action. That was recognised through our internal quality assurance procedures very quickly, so there wasn't much of a time frame that people had that incorrect information, but we do apologise.
En France maintenant, avec le port du masque qui va être obligatoire pour les jeunes de 6 ans à partir de demain, lundi 3 janvier, dans les transports, pour les déplacements dans les restaurants, dans les bateaux, les avions, les véhicules ainsi que dans les gares. Les précisions de Claire Goudreau pour RFI.
C'est une nouvelle mesure de restriction qui doit s'appliquer dans près de 50 départements en France. Le masque obligatoire pour les enfants dès 6 ans dans de nombreux lieux publics. Et si cette mesure ne fait pas l'unanimité, elle est juste, selon Elisa, 38 ans, mère de 2 enfants, qui ne devrait pas voir ses habitudes changer.
Nos enfants, ils portent déjà le masque à l'intérieur, dans les lieux publics, que ce soit dans le train, dans les magasins, quoi que ce soit. Et vu le taux d'incidence chez les enfants, moi je trouve ça complètement normal qu'ils le portent.
Un avis partagé par son mari, Bertrand, 40 ans, qui estime que cela pourrait permettre de freiner l'épidémie.
La situation est ce qu'elle est, hein. On subit ce virus qui n'arrête pas de nous embêter et bah, du coup il faut qu'on protège au maximum à la fois nos enfants et puis à la fois le reste des gens, quoi.
Chloé, 33 ans, s'inquiète quant à elle pour sa fille Philippine, 6 ans, pour qui le masque est devenu une véritable contrainte.
On est marre.
Ouais, elle en a marre. Ouais, elle en a marre et c'est beaucoup pour eux, je trouve. Il faut se concentrer sur le vrai problème, et le vrai problème, enfin, selon moi, c'est les personnes non vaccinées. Voilà.
D'après le gouvernement, le taux de vaccination chez les enfants est encore trop faible, d'où la mise en place de cette mesure. Pour l'instant, parmi les enfants âgés entre 5 et 11 ans, 64 000 ont été vaccinés.
Et puis, c'est la fin des emballages en plastique à usage unique depuis hier en France. Sylvie Coffi, RFI.
Ils sont une trentaine de fruits et de légumes concernés par la fin des emballages plastiques. Exemple, concombres et brocolis ne seront plus sous film cellophane. Pommes, poires ou kiwis ne seront plus vendus emballés dans des barquettes plastifiées. Des produits que cette étudiante avait pourtant l'habitude d'acheter.
Oui, ça m'arrive souvent d'en acheter quand je me fais livrer les courses. Sinon, quand je vais en magasin moi-même, je fais attention de ne pas en prendre. Ça serait bien pour l'environnement. Le plastique tue les animaux, surtout en mer. Donc je ne savais pas du tout que ça être supprimé en tout cas.
Remplacer le plastique, oui, mais par quoi ? Lou Légume, installé en Bretagne, produit 8000 tonnes de champignons de Paris par an. Emmanuel Rose, à la tête de cette entreprise familiale, a dû réorganiser toute la filière pour modifier les emballages.
Le champignon est un produit très humide. On a fait 3 ans d'essai sur des barquettes en carton. Le carton est 4 fois plus volumineux. Nous, nos champignons, ils sont cueillis par nos cueilleurs directement dans les barquettes. Donc, on a été obligé de changer nos méthode au niveau de l'accueil des champignons. On a une augmentation du coût de l'emballage, on a une augmentation des coûts de main d'œuvre. Et c'est pas fini, puisque là, il faut qu'on trouve une solution pour enlever le film étirable.
La filière champignons, comme d'autres familles de produits, a d'ores et déjà obtenu un délai de 2 ans afin de se mettre aux normes.
Le pape François a utilisé son message du jour de l'an pour inciter les gens à se concentrer sur le bien qui les unit et à dénoncer les violences faites aux femmes. Des milliers de personnes portant des masques à Rome se sont rassemblées sur la place Saint-Pierre pour entendre le pontife parler depuis la fenêtre du palais. L'Église catholique romaine marque le jour du Nouvel An comme une journée dédiée à la paix dans le monde.
Possiamo costruire veramente.
We can only truly build peace if we have it in our hearts, only if we receive it from the Prince of Peace. But peace is also our commitment. It asks us to take the first step. It asks for concrete behavior. It's built with the attention to the poorest, with the promotion of justice, with the courage of forgiveness, which can extinguish the fire of hatred.
Il fuoco dell'odio.
Et ce reportage du message du pape par Eric Sénanc pour RFI.
Quanta violenza c'è nei confronti delle donne.
Que de violence il y a à l'égard des femmes. Assez, blesser une femme, c'est outrager Dieu qui d'une femme a pris l'humanité, a lancé le pape dans son homélie lors de la première messe de l'année célébrée dans la basilique Saint-Pierre. Les femmes savent surmonter les obstacles et les conflits. Elles savent insuffler la paix, a expliqué le pape. Elles réussissent ainsi à transformer les adversités en opportunités de renaissance et de croissance. Quelques minutes après la messe, s'adressant à la foule rassemblée place Saint-Pierre pour écouter l'Angélus, François est revenu sur les temps incertains et difficiles à cause de la pandémie.
Bon anno.
Nombreux sont ceux qui ont peur de l'avenir et qui sont accablés par les situations sociales, les problèmes personnels, la crise écologique, les injustices et les déséquilibres économiques planétaires, a expliqué le pape, tournant aussi son regard vers les femmes.
Guardando Maria con in braccio il suo figlio, penso alle giovani madri.
En regardant Marie tenant son enfant dans les bras, je pense aux jeunes mères et à leurs enfants qui fuient les guerres et la famine ou qui attendent dans des camps de réfugiés. Le 1er janvier marque aussi pour l'Église la journée mondiale de la paix. La paix, a dit François, qui demande un engagement de chacun. Il n'y a pas lieu de se laisser abattre et de se plaindre, mais de retrousser ses manches pour construire la paix.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié l'archevêque Desmond Tutu de militant pour la justice, l'égalité et la paix en Afrique du Sud et dans le monde lors des funérailles de l'icône anti-apartheid hier. Reportage de Gaël Alex pour RFI sur place.
Sous un crachin glacé, une quarantaine de personnes écoutent la cérémonie en silence. Mkena Malindi vient de Johannesburg. Il tenait à faire le déplacement, même s'il ne peut entrer dans la cathédrale.
Quand Mandela a été libéré en 1990, il a fait sa première déclaration à la cathédrale Saint-Georges de Desmond Tutu. Puis, il y avait tellement de monde qu'il est venu ici, sur cette place, pour s'adresser aux gens. Donc, être ici, c'est aussi bien que d'être dans la cathédrale elle-même.
Sur le visage d'Andile Zaninfula, une larme coule, rapidement cachée par le masque chirurgical. Être sur cette place fait remonter bien des souvenirs.
J'ai fait partie du premier groupe de détenus libérés de Robben Island après Nelson Mandela. Et Desmond Tutu nous a accueillis chaleureusement. La plupart des gens pensaient que nous étions des criminels, mais lui savait que c'était faux, que nous combattions le système de l'apartheid. Il nous a donc très bien accueillis et c'est pour ça que je suis là, pour lui dire au revoir.
Mais peu de personnes ont bravé la pluie, préférant suivre la cérémonie à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Un manque d'engagement que regrette James.
Les temps ont changé en Afrique du Sud. Les gens ne sont plus vraiment intéressés par les grandes figures politiques. Par le passé, les services de train et de bus auraient proposé des voyages gratuits pour permettre aux gens de venir. Ça aurait bien aidé. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas une option.
Les cendres de Desmond Tutu reposeront dans la cathédrale Saint-Georges.
Un incendie de forêt dans l'État américain du Colorado a détruit près de 1000 maisons et des centaines d'autres ont été endommagées. Les autorités sont à la recherche de 3 personnes portées disparues. Le shérif du comté de Boulder, Joe Pell, a déclaré que la cause de l'incident faisait l'objet d'une enquête.
We're looking into the cause and origin of the fire. And if it turns out to be arson or reckless behavior with fire, we'll take appropriate actions. It was a red flag day, the day of the fire, so there shouldn't have been any burning of anything. We had the reports of lines down, but we believe that maybe people were seeing telecom lines that hang under the power lines that were down, rather than the power lines themselves.
Le cyclone tropical Seth devrait déclencher des vagues dangereuses alors qu'il commence à se diriger vers le sud au large de la côte du Queensland. Le système de catégorie 1 se déplace vers le sud-est à 29 km à l'heure. Des avertissements de temps violent sont en place pour le sud-est du Queensland et les côtes nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud ce dimanche. Coup d'œil météo, en Australie, à Perth, il fera 33 degrés, Adélaïde 29, Melbourne 28, Hobart 22, Canberra 33, Sydney 29, Brisbane 30, Cairns 35, Darwin 33 et à Alice Springs, maximale de 41 degrés. Un rappel des grands titres de ce 2 janvier, le Premier ministre Scott Morrison surveille les symptômes de Covid-19 après qu'un cas positif ait assisté à sa conférence de presse mercredi dernier. Forte augmentation de patients Covid-19 dans les hôpitaux en Nouvelle-Galles du Sud. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench. Thank you.
journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le Dakar 2022, c'est parti. Et je vous propose d'abord ce focus sur le français Stéphane Peter-Ancel, qui d'ailleurs a deux moteurs électriques dans sa voiture, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale.
Et au départ, il y aura bien sûr Monsieur Dakar, Stéphane Peter-Ancel, recordman de victoires dans l'épreuve, 6 en moto, 8 en auto. Il est d'ailleurs tenant du titre de cette catégorie, mais cette fois, le Français ne sera pas favori. Son pari est osé, partir pour la première fois au volant d'une voiture hybride avec deux moteurs électriques. Un sacré défi et beaucoup d'excitation pour le pilote de 53 ans.
C'était possible pour moi d'arrêter l'année dernière. Le timing était bon après avoir gagné sur 3 continents différents, mais le projet d'Audi était vraiment intéressant et tellement innovant que c'était impossible pour moi de refuser. J'étais très curieux de ce qu'allait devenir le futur du Dakar, donc la motivation a été facile à trouver. Je suis très heureux de faire partie de ce projet parce qu'il est très ambitieux.
Et hier, déjà, la première étape a eu lieu. Le point avec Antoine Grenier pour RFI.
C'est un habitué, Nasser El Attiah, qui a remporté le prologue de 19 km sur sa Toyota. Prologue couru entre Jeddah et Ahil. Le Qatarien, vainqueur avec un temps de 10 minutes et 56 secondes devant l'Espagnol Carlos Sainz, double champion du monde des rallyes et triple vainqueur du Dakar. Sainz qui dispute la compétition avec sa nouvelle Audi hybride, une des nouveautés de cette édition 2022. En moto, la première victoire est elle revenue à l'Australien Daniel Sanders sur KTM. Cette première journée du Dakar marquée hors course par la grave blessure d'un pilote de buggy français. Philippe Boutron a été touché au mollet lors de l'explosion survenue sur un véhicule d'assistance. Une enquête des services de sécurité saoudiens est en cours. La sécurité autour du rallye a été renforcée. Quant au pilote, il doit être rapatrié en France après avoir été opéré. Le Dakar 2022 va durer 2 semaines et parcourir 8000 km dimanche. Deuxième étape, 514 km, dont 333 de spécial.
On passe au foot, la Premier League en Angleterre avec la victoire de Manchester City contre Arsenal. 2-1, Philippe Auclair et Antoine Grenier pour RFI.
C'est cruel. On va dire qu'ils loupent au niveau du résultat, mais ils n'ont pas du tout loupé au niveau de la performance, en tout cas pas lors d'une première période qu'ils ont dominée. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent dire ça contre Manchester City, qui, rappelons-le, avait quand même 10 victoires d'affilée avant d'arriver à l'Emirates. Une très très belle prestation de l'équipe de Mikel Arteta en l'absence de leur entraîneur pour cause de Covid. Mais encore une fois, après avoir ouvert la marque sur un but absolument somptueux de Bukayo Saka, un merveilleux mouvement collectif conclu par le 6e but du jeune attaquant anglais en Première Ligue cette saison, eh bien Arsenal est retombé dans ses vilains défauts. Un pénalty, on va dire, très généreux accordé, mais pour un geste en tout cas risqué, on va dire, de Granit Xhaka dans la surface. Un pénalty qui a été transformé par Riyad Mahrez. Ça, c'était en seconde période. Et puis, quasiment immédiatement après, eh bien Gabriel, le défenseur central brésilien des Gunners, qui est exclu pour 2 cartons jaunes en l'espace de 2 minutes. Et donc Arsenal qui tient et qui finit par craquer à la 93e minute sur un but un petit peu chanson, on va dire, des Citizens. Donc ils ont poussé Manchester City jusqu'au bout. Dans d'autres circonstances, avec peut-être des décisions arbitrales, peut-être un petit peu moins défavorables, on va dire ça comme ça, peut-être aurait-il pu l'emporter. Match nul certainement. Mais en tout cas, ça confortera Mikel Arteta dans l'idée que son équipe a fait d'énormes progrès. Mais par contre, au niveau comptable, pour Manchester City, c'est le break, le clean break, puisque à l'issue de cette rencontre, ils ont désormais 11 points d'avance sur Chelsea et 12 points d'avance sur Liverpool, qui joue demain, ce dimanche. Alors certes, Chelsea a un match en moins, certes, Liverpool en a 2, mais le break est fait. Et quand on voyait la façon dont les joueurs de Manchester City ont célébré le but de la victoire de Rodri, donc à la 93e minute, c'était comme s'ils avaient célébré le titre. Et je peux vous dire qu'en Angleterre, aujourd'hui, il ne fait vraiment plus beaucoup de doute dans l'esprit de beaucoup de monde que ce titre, c'est sans doute aujourd'hui que Manchester City, lors de cette 20e journée, l'aura acquis.
Chelsea, 2e, jouera contre Liverpool, 3e, ce dimanche. Et on passe à quelques nouvelles de foot en bref avec Clémentine Patlovski et Thomas de Saint-Léger pour RFI.
En football, ça bouge sur les bancs de la Ligue 1. Après Claude Puel à Saint-Etienne, 2 entraîneurs vont aussi quitter leur poste avant la reprise.
Rupture actée, signée même entre Laurent Batless et 3 17e de Ligue 1. Et beaucoup plus surprenant du côté de Monaco. On apprend ce soir le départ imminent du Croate Niko Kovac qui avait emmené la formation princière sur le podium du championnat la saison passée. Monaco, actuellement sixième du classement, est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.
Et une question, le Covid va-t-il perturber la reprise des clubs français ? De nombreux cas ont en tout cas été signalés.
Bordeaux, de son côté, n'est pas sûr de pouvoir aligner une équipe pour le déplacement à Brest dimanche en Coupe de France. Idem pour Angers qui annonce 19 cas positifs dans son effectif et demande, comme Bordeaux d'ailleurs, le report de son match de Ligue 1 face à Saint-Étienne prévu le 9 janvier prochain, avec en plus de nombreux joueurs convoqués pour la CAN avec leurs sélections respectives. Le casse-tête devrait encore se compliquer dans les prochaines semaines.
La CAN et ses jours J moins 7, comme nous l'explique Mehdi Meded pour RFI.
La Gambie, dont ce sera la première participation, la Gambie qui est dans une mauvaise passe puisqu'elle a dû annuler ses deux matchs amicaux contre l'Algérie qui était prévu ce soir et la Syrie la semaine prochaine. Car 16 des 28 joueurs gambiens sont indisponibles. Tout y passe, Covid, blessures, maladies, restrictions de voyage.
Et puis la nouvelle que Victor Osimhen ne jouera pas pour le Nigeria, il a le Covid, comme nous l'explique Christophe Jousset pour RFI.
Il était l'un des joueurs les plus attendus sur les pelouses camerounaises avec les Salah, Mané et Mahrez. Victor Osimhen ne sera pas au rendez-vous. Onyekuru prend sa place dans la liste révisée ce matin par la Fédération nigériane, 24 heures à peine après l'annonce de son test positif au Covid. Triste épilogue pour un joueur qui avait fait tout son possible pour revenir après une sérieuse blessure. Fin novembre, un choc lors d'un match lui occasionne de multiples fractures au visage. L'orbite de l'œil est touchée ainsi que la pommette. Naples est alors en tête du championnat d'Italie grâce notamment à la grande forme d'Osimhen et le club annonce 3 mois d'indisponibilité. Pourtant, début décembre, le Nigérian reprend la course à l'entraînement et il y a quelques jours, son nom apparaît dans la première liste des joueurs retenus pour la CAN. Manifestement, le Covid a mis fin à tout suspense. Non, le prix Marc-Vivien Foé 2020 ne jouera pas la Coupe d'Afrique. Une issue qui ne fera sûrement pas de peine à l'entraîneur de Naples, très réticent à libérer ses internationaux africains. Récemment, Luciano Spalletti qualifiait la CAN de monstre invisible qui vient prendre des joueurs dans ton vestiaire.
Et maintenant, en cette période de transition entre 2021 et 2022, je vous propose la rétro avec l'Italie qui a remporté l'Euro en 2021 contre l'Angleterre à Wembley. Simon Bourtembourg pour RFI.
Le succès des Italiens prend son origine en 2018. Né d'une humiliation, celle d'avoir été incapable de se qualifier pour le Mondial en Russie, une première depuis 60 ans. Avec l'arrivée de Roberto Mancini, la nationale étire un trait sur son style de jeu historique, le catenaccio, une tactique qui prône la solidité défensive. Le sélectionneur italien met en place une philosophie plus séduisante en se basant sur la jeunesse, avec notamment Federico Chiesa et Nicolò Barella. Un pari gagnant, puisque 3 ans plus tard, c'est avec le statut d'outsider que les Italiens arrivent à l'Euro. Euro qu'ils remportent finalement face à l'Angleterre à Wembley, grâce à un jeu généreux mêlant rigueur défensive et allant offensif. La bande à Mancini marque même de son empreinte l'histoire du football en sélection, en réalisant 37 matchs d'affilée sans défaite, une série record à laquelle met fin la Rora en Ligue des Nations. Un point de bascule pour la nationale et qui ne savoure pas longtemps son triomphe de l'Euro. En difficulté dans leur groupe, les Italiens ne parviennent pas à se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2022. Les voilà contraints à passer par les barrages en mars prochain pour être du voyage au Qatar.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Pleasure of welcoming on SBS French, Jessica Bridgefoot. Welcome.
Thank you.
And you are the Bendigo Art Gallery Director. And we're going to be talking about Pinpi. I hope I'm pronouncing everything correctly. Pinpi goes to Paris. It's an exhibition of contemporary Australian indigenous fashion and design creatives. What can you tell us about that?
Oh, thank you. And Pimpi is how you pronounce it. Well done. So Pimpi is actually a Kanju word, which is from East Cape York region of Australia, and it means seasons. Mm-hmm. And seasons underpins the whole curatorial premise or the themes within the exhibition. So the exhibition is based around the Indigenous themes, which kind of range from seasons, which range from between 5 to about 14 seasons per year. And that's the way that the exhibition is laid out. So to give you some context, that this is the first Indigenous fashion exhibition, or the largest in Australia. And we're very excited that this exhibition is touring to Paris. And the original exhibition featured over 90 garments drawn from all around Australia. And as the title, Pimpi, infers, the exhibition does follow the Indigenous season. So the garments are grouped into sections of the wet season, cool season, the season of regeneration, so when flowers come out. And when the turtles lay their eggs. And then there is the cool season as well, which includes, sort of beautiful garments and possum skin cloaks, as well as, of course, a streetwear section, which is called Black and Deadly. So the exhibition will be touring to Paris in January, and we think that this is definitely the first of its kind to be presented in Paris. So it will be fascinating to see how it's received.
A world premiere. So the exhibition was curated by Shoney Hobson, I believe?
Yes, that's right. And Pimpi is Kanju, which is Shoney's grandmother's language for seasons. So it was a very initially a personal exhibition, taking that story and then sort of extending it in, you know, what really is, I think, such a generous gesture of culture and storytelling. And I think that is what really sets Indigenous Australian fashion apart, in that it is a confluence of storytelling and ancient culture with, you know, a contemporary sort of sensibility, and definitely in a contemporary sense something to say. So each of the garments in the exhibition have their own story to tell about being on country or dreaming, as well as being absolutely beautiful and wearable.
And the other designers are of Indigenous background?
Yes, so all of the designers in the exhibition are Indigenous. Some of the garments that are in the exhibition are collaborations between garment makers and artists who paint directly onto the fabric, or screen print as well. So some of the garments, like, for example, the Hope Veil garments, very much look like wearable art, in that they're, you know, highly colourful and yeah, sort of patterned, as well as being quite sculptural. The original exhibition featured over 70 artists and designers, and the touring exhibition features 50 artists and designers.
So the exhibition is being facilitated by the federal government and also by Creative Victoria's strategic program?
Yes, it's part of a big presentation, which I believe is called Australia Now in Paris, and obviously has been staged to coincide with Eau Couture Week in Paris. So not only will there be an exhibition at the Australian Embassy Gallery, which is a beautiful gallery, but there'll also be an exhibition, a pop-up exhibition at the BHV department store in Marais during the Fashion Week. And so we're pretty excited about that, because I think that also gives the artists and designers an opportunity to sort of showcase their work in a retail and commercial setting as well. So hopefully there'll be lots of exposure for the designers, and some good things will come out of this, because I think Indigenous fashion, is definitely kind of the next exciting export for Australia. We know that there's a huge appetite for Indigenous Australian design and, particularly painting and art, but
fashion is certainly the kind of next exciting industry, I think, that's starting to burgeon. And yeah, it's very exciting to be a part of it. And you know, we just hope that you know, all good things come out of this, and the more attention on Indigenous Australian designers, the better.
Fantastic news. And we take the opportunity, because you are the director of the Bendigo Art Gallery, to ask you some questions about some of the exhibitions that are on at the moment over summer for the kids.
Oh, fantastic. Well, we've got quite a great range of exhibitions on at the moment. So we've got some beautiful contemporary artworks from our collection out on display, some recent acquisitions and some old favourites, including our gorgeous Patricia Piccinini Young Family, which is always a delight for young kids and families. But we also have the Arthur Guy Memorial Painting Prize, which is a big contemporary survey of Australian painting now, and an exhibition that we've curated with a curator called Noor Shkembi. And that exhibition is called Soul Fury, and it features the work of women artists of Islamic heritage, Australian and international artists, and brings them together in this really large survey of you know, Islamic contemporary art, which is a fascinating show, and that will be on all over summer.
And next year you've got Elvis direct from Graceland.
Yes, we do. Yeah, we're very much looking forward to Elvis, and it's an exhibition that, you know, we've been talking about for a long time. We do tend to have a focus on fashion and design and celebrity as well as contemporary art, but, you know, we do love a good sort of celebrity fashion show, and my gosh, like, who better than Elvis to focus on, you know, what incredible style he had, and a style that still absolutely resonates today. So that's a show that we've curated with the Graceland Archives, and many of the objects in the exhibition, which are pretty outrageous, like the gold-plated telephone he had on his bedside table, are coming over, and they've never left the gates of Graceland. So it's a real opportunity for, you know, people that are interested in Elvis, obviously, or music, but also interested in pop culture to come and have a look at, I guess, you know, the 20th century sort of original celebrity. He's certainly probably one of the most iconic figures of our time.
Jessica Bridgewood, thank you so much for coming on to SBS French and speaking about Pimpi Goes to Paris, and all the best for the future. Thank you.
Thank you. Thank you for having me.
Et nous arrivons presque à la fin de cette émission de ce dimanche 2 janvier. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Belle journée et encore une fois, belle année 2022 à toutes et à tous, vous, les fidèles de SBS French. À très bientôt.
Commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.